France Culture.
On fait le point sur l'info, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Tout le monde savait son pari perdu d'avance et sans surprise, le couperet est tombé implacable hier. François Bayrou a donc échoué à obtenir le vote de confiance de l'Assemblée. Quelle est la prochaine étape? On étudiera les options possibles et notamment la possibilité ou non pour les forces politiques de parvenir à s'entendre sur des compromis. On se rendra par ailleurs à Strasbourg à l'occasion d'une session plénière du Parlement européen pour y recueillir les premières réactions. Puis avec notre invité, on s'interrogera sur les conséquences de cette énième crise pour la fiscalité, le budget de la France. À suivre également l'actualité à l'étranger. Tout d'abord, cette opération imminente de l'armée israélienne destinée à prendre le contrôle de la ville de Gaza malgré les inquiétudes sur le sort des civils. Enfin, on s'intéressera au climat politique tendu en Côte d'Ivoire dans la perspective de la prochaine élection présidentielle de laquelle tous les principaux opposants ont été exclus. Au terme d'une journée historique, bien que totalement dénuée de suspense, la chute de François Bayrou a donc à nouveau plongé le pays tout entier ce matin dans la circonspection face à une crise à laquelle décidément personne ne semble en mesure aujourd'hui de trouver une issue possible. D'ici quelques minutes, François Bayrou remettra sa démission au chef de l'État. Il devra ensuite expédier les affaires courantes en attendant la nomination d'un successeur, le cinquième depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, du jamais vu dans la Ve République. Alors, qui pour succéder à François Bayrou, tourner manège? Plusieurs noms alimentent les spéculations avec la prudence de réserve qui s'impose à moins qu'un profil technique n'émerge ou qu'un médiateur ne soit nommé pour aboutir à un accord de gouvernement. Quoi qu'il en soit, le président le sait, s'il n'a aujourd'hui a priori que des cartes imparfaites entre les mains, l'atout qu'il devra abattre malgré tout sera probablement le dernier avant de devoir, en cas de nouvel échec, redissoudre l'Assemblée, voire d'être acculé en cas d'impasse prolongée à une démission. Seule certitude, dos au mur et face aux doutes comme à la fatigue des Français, confère le mouvement de protestation prévu demain qui précédera la mobilisation syndicale du 18 septembre. Emmanuel Macron va devoir agir sans tarder. Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour.
Toute la question pourrait se résumer ainsi. Comment trouver un Premier ministre susceptible de survivre dans un paysage parlementaire morcelé et surtout sans majorité, pour le dire autrement, comment faire avancer un compromis avec des forces politiques opposées?
Et dans le bloc central, on jure qu'on y est prêt au compromis. La présidente de l'Assemblée appelle à un pacte de responsabilité. Le patron du parti Renaissance plaide pour un socle commun minimal. Marc Fesneau, à la tête des députés Modem, ne dit pas autre chose.
J'avais dit à l'époque à Michel Barnier que nous avions besoin de construire une forme d'union nationale autour d'un contrat de projet ou un contrat parlementaire qui nous permettrait de dire voilà les textes sur lesquels on peut s'entendre. Il me semble que cette question elle est plus que jamais d'actualité. Si on ne se parle pas et si on dit j'applique mon programme sans les autres, sans essayer de trouver une plateforme qui nous permettrait de nous réunir sur un certain nombre de sujets, le sujet du déficit et de la dette, le sujet du budget, le sujet de quelques priorités d'ici 2027, alors nous échouerons.
Les centristes reparlent d'une plus grande justice fiscale, des macronistes poussent de nouveau pour la taxation des hauts revenus. Et partout, on réfléchit aux moyens de convaincre à gauche sans perdre à droite, où le patron des LR, Bruno Retailleau, envisage des concessions, mais écarte l'hypothèse d'un Premier ministre socialiste.
Le projet socialiste ne correspond pas à ce que veulent la majorité des Français qui sont plutôt à droite, ni à l'intérêt de la France.
Sauf qu'il n'est pas suivi par tout le monde dans ses rangs. Le député LR Hubert Brigand, par exemple.
Il faudra discuter. Moi, je ne suis pas hostile. L'intérêt de la France, ce n'est pas que chaque groupe politique se regarde le nombril. Si tout le monde garde ses lignes rouges, je vous donne rendez-vous au mois de janvier pour une nouvelle censure.
Un troisième revers menacerait encore plus l'avenir du président Emmanuel Macron, qui pourrait, vous le disiez, ne plus avoir d'autre choix que la dissolution ou la démission. La première option reste, pour convaincre une partie des forces de s'entendre, un moyen de pression.
Merci Rosalie Lafarge. Alors toute cette séquence n'aura fait au fond que rouvrir toutes les questions restées jusque-là sans réponse, que ce soit sur la spirale déficitaire de la France. On va y revenir dans un instant avec notre invité, mais plus encore, on l'a dit, sur cette impasse politique qu'implique aujourd'hui une Assemblée nationale explosée et avec une France qui chancelle à nouveau et une crise dont personne ne voit le bout. Forcément, certains s'inquiètent déjà de quelles pourraient être les répercussions européennes. Fabien Cazot, bonjour.
Bonjour.
Ce matin avait lieu une session plénière à Strasbourg et on imagine que la situation française, donc Fabien, a dû assez largement monopoliser les débats dans les couloirs du Parlement.
Oui, et je peux vous assurer que les eurodéputés français doivent faire preuve de beaucoup de pédagogie auprès de leurs collègues européens, sans forcément avoir toutes les réponses. Marie Toussaint, par exemple, conduit la délégation française écologiste.
On a des questions des collègues européens, mais que va-t-il se passer maintenant? À quoi nous sommes contraints de répondre? Nous ne savons pas, ce sera la surprise. C'est vraiment de l'instabilité et évidemment ce n'est pas bon pour la France, pour sa réputation, pour ses relations avec les autres pays. Et ce n'est pas non plus bon, et ça c'est malheureux, pour son poids dans les décisions prises par l'Union européenne.
Beaucoup de questionnements aussi dans les rangs macronistes, comme en témoigne l'eurodéputé Marie-Pierre Védrenne sur le rôle moteur qu'occupe traditionnellement la France dans la construction européenne.
À mes collègues, dès hier soir, m'interroger sur la suite. Parce qu'on attend que la dynamique portée par le président de la République continue à être là. Quand j'échange avec mes collègues allemands ou mes collègues italiens, ils me disent qu'on a besoin d'une stabilité politique en France pour pouvoir être fort sur la scène internationale.
Quel que soit leur bord politique, chaque eurodéputé a son avis ici sur la crise politique en France. Certains plaidant pour une coalition gouvernementale autour d'Emmanuel Macron la plus large possible, quand d'autres, au contraire, jugent son départ inéluctable.
Merci Fabien Cazot. Alors malgré la chute du gouvernement Bayrou, les principales bourses européennes restent aujourd'hui encore orientées à la hausse, sans doute parce que l'événement avait été très largement anticipé par les investisseurs, ce qui ne préjuge en rien en revanche des difficultés bien réelles de la France face à une combinaison de faible croissance économique, des coûts d'emprunt élevés et une dette publique parmi les plus élevées en Europe, le tout sans solution à court terme. Pour en parler avec nous, invité de la rédaction à présent, Antoine Bozio, économiste, directeur de l'Institut des politiques publiques et maître de conférence à l'EHESS. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Marie Vienneau, chef du service économie de la rédaction. Bonjour Marie.
Bonjour.
Hier après-midi, dans son discours de politique générale, précédant donc la chute de son gouvernement, François Bayrou s'est employé à dénoncer la fausse solution que constituerait, selon lui, le fait de faire reposer une plus grande partie de l'effort budgétaire demandé aux Français sur les plus riches. Une telle politique relèverait, selon lui, de la pensée magique, parce qu'elle nuirait à l'investissement privé et conduirait les personnes ciblées à déménager, ce dont l'exemple britannique nous apporterait la preuve. Est-ce que vous partagez ce raisonnement ?
Alors, lorsqu'on peut étudier ce qui s'est passé dans le passé en termes de réformes de taxation pour les hauts revenus et hauts patrimoines, on a l'exemple des hausses de fiscalité sous François Hollande, on a vu des effets d'exil fiscal. Mais ils étaient très limités en termes de nombre de foyers fiscaux qui sont effectivement partis, ce qui fait que quand on regarde la perte qui a eu lieu, c'est relativement limité. À l'inverse, il y a d'autres réactions comportementales qui sont plus problématiques parce qu'elles jouent négativement sur les recettes, comme les optimisations. On a vu ça après les hausses de fiscalité de François Hollande, des optimisations, des baisses de versement de dividendes qui ont pesé négativement sur les recettes. C'est plus ce sujet-là qui devrait être important plutôt que l'exil fiscal.
Question de Marie Vino.
Oui, alors Antoine Bozio, l'Institut des politiques publiques que vous dirigez publie régulièrement des analyses sur les projets de loi de finances et en particulier les impacts redistributifs de ces budgets sur les ménages, les entreprises. Qu'avez-vous constaté depuis que vous analysez ces budgets? Ça a commencé dès 2018, si je ne me trompe. La politique d'Emmanuel Macron a-t-elle accru les inégalités comme cela lui est souvent reproché?
Alors si on prend, ça dépend à la façon dont à quelle loupe on va regarder, si on prend de façon assez globale, c'est assez limité. Pourquoi ? Parce qu'une grande partie en fait, des grands effets de politique budgétaire, de baisse d'impôts et de baisse d'impôts pour les ménages et les entreprises, en masse, ça a été la baisse de la taxe d'habitation, ça a été des baisses d'impôts pour les entreprises. Par contre, il y a eu un effet assez particulier, des baisses dont on a parlé sur les revenus du capital, qui a été la suppression d'une partie de l'ISF, et le fait de changement, la taxation des revenus du capital, qui là sont très très concentrés sur les plus hauts revenus. Et ces ménages-là ont été plus bénéficiaires de ce type de baisse d'impôts, mais qui représentent une part plus faible de la totalité des baisses d'impôts, des baisses de prélèvements obligatoires qu'on a vues, qui eux ont bénéficié beaucoup plus largement à l'ensemble de la population.
Donc les inégalités se sont accrues tout en haut du panier, ce qui est souvent le reproche qui lui est fait, mais c'est factuellement vrai.
Alors, c'est plus compliqué que ça parce que leur revenu, effectivement, apparaît avoir été augmenté, mais en partie, c'était parce qu'ils détenaient une partie de ces revenus dans leurs entreprises. Lorsqu'on prend en compte les deux côtés, le fait qu'une partie de ces revenus était détenue dans les entreprises, l'effet net sur les inégalités réelles en termes de patrimoine est beaucoup plus limité. Donc, il y a eu un effet de substitution et du coup, on a eu un effet finalement sur les inégalités qui est beaucoup moindre que ce qu'elle apparaît. Mais elle a été réelle parce que dès lors qu'on touche à la baisse des revenus sur le capital ou sur le patrimoine, on va toucher les plus hauts revenus et les plus hauts patrimoines.
Alors, on entend beaucoup les responsables politiques en ce moment dire que la dépense publique doit être efficace, qu'un euro dépensé doit être un euro utile, qu'une fois que eux ou elles auront le pouvoir, ils sauront faire le tri. Vous qui êtes à la tête d'un institut dont l'une des missions est d'évaluer les politiques publiques, donc vous trouvez que c'est fait correctement en France, et est-ce que cette évaluation ne fait pas justement les frais des réductions budgétaires des ministères année après année ?
Alors pendant très longtemps, la France a été vraiment un élève en retard par rapport à ce que était fait dans les pays d'Europe du Nord en termes d'évaluation, où on avait, et l'ensemble des partis politiques pensaient qu'il était naturel d'essayer d'évaluer l'impact d'une politique pour savoir si elle a atteint son objectif ou pas. On s'est depuis 10 ans mis à faire d'évaluation en France de façon très nette. On a des très bonnes données administratives, on a des très bonnes qualités en fait, de l'information qui est détenue dans les administrations, et aujourd'hui on peut faire des évaluations de bonne qualité. Mais c'est vrai que la première fois qu'on essaye de faire en sorte de faire des réductions budgétaires, c'est très facile de supprimer des évaluations, des budgets d'évaluation, parce que c'est des budgets annexes qui ne sont pas le cœur du métier, finalement, de la plupart de ces administrations. Donc là, on a vu plutôt une baisse des contrats d'évaluation, ce qui est dommage, alors même que l'ampleur du débat qui porte sur quelles dépenses publiques réduire, quelles dépenses publiques augmenter, dépend évidemment de l'efficacité au vu des objectifs que la nation se donne de ses politiques publiques.
Alors on est dans une situation où l'augmentation du déficit est pour l'essentiel liée à la baisse de la fiscalité pour les entreprises, mais aussi pour les ménages. Or, sur le plan politique, on voit que c'est une ligne rouge, en fait, en tout cas du bloc central et de la droite. Il ne faut pas augmenter les impôts. Est-ce que vous pensez qu'on peut sortir de ce déficit à 135 milliards d'euros, le ramener à 3% du PIB sans augmenter les impôts? Et là, je parle pas seulement des impôts des plus riches.
Alors, il est factuellement vrai que l'essentiel du déficit aujourd'hui ne vient pas d'une augmentation de la dépense publique, mais bien d'une baisse des prélèvements obligatoires. Dans la baisse de ces prélèvements obligatoires, ce que je disais à l'instant, ce n'est pas l'essentiel des baisses d'impôts sur les plus riches, c'est des choses qui ont été partagées par l'ensemble de la population pour les ménages, pour la taxe d'habitation, ça c'est un gros morceau, et puis des baisses de charges pour les entreprises. Est-ce qu'on peut se permettre de réduire rapidement le déficit sans actionner à la fois les réductions de dépenses et les augmentations de prélèvements obligatoires? C'est vraiment très difficile. On devrait arriver à faire un mélange en choisissant des augmentations de prélèvements obligatoires qui ont le moins d'effets négatifs pour l'économie et en termes d'équité et de justice fiscale. Et à l'inverse, on doit choisir dans nos dépenses publiques lesquelles sont les moins efficaces, pourvu qu'on ait fait de l'évaluation de celles-ci, pour pouvoir privilégier, y compris des investissements dans d'autres politiques qui ont plus d'intérêt pour et d'efficacité pour le pays.
Et on terminera par ces mots. Merci Antoine Bozio, directeur de l'Institut des politiques publiques, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, Marie Viennot, ainsi qu'à Loïs Guérin pour la préparation.
C'était l'un des principaux espoirs auxquels s'accrochaient les associations de patients atteints de la maladie d'Alzheimer.
Oui, et finalement, ce nouveau traitement ne sera pas remboursé, du moins dans l'immédiat en France. Tara Schlegel, bonjour.
Bonjour.
La Haute Autorité de Santé se montre sceptique, évoquant des effets secondaires bien trop lourds au regard de bénéfices qu'elle juge insignifiants.
Et ce n'est pas totalement une surprise, même si les associations de patients sont évidemment déçues. À l'échelon européen, déjà, la mise sur le marché du médicament avait été très difficile. D'abord rejetée en juillet l'an dernier, l'EMA, l'Agence européenne du médicament, avait 4 mois plus tard changé d'avis et accordé son autorisation en restreignant l'utilisation du lecanemab, c'est le nom de la molécule, aux malades d'Alzheimer qui ne sont pas porteurs d'une modification génétique, APOE4, laquelle aggrave encore les effets secondaires. Car on y vient. Le lecanemab n'est pas sans risque, il agit directement dans le cerveau sur les plaques amyloïdes qui elles-mêmes attaquent les neurones provoquant entre autres les pertes de mémoire des malades, mais il provoque aussi des mini-hémorragies ou de petits œdèmes souvent asymptomatiques mais parfois qui dégénèrent surtout chez les porteurs de ce gène APOE4. Mais même en excluant ces malades, donc plus sensibles, les autorités françaises viennent bien de refuser l'accès précoce car parallèlement au danger, le lecanemab, je cite, a une quantité d'efficacité modeste, non cliniquement pertinente. Sur les 1500 patients enrôlés dans les essais présentés et mis en avant par le laboratoire fabricant japonais, l'amélioration est donc modeste, la maladie est retardée d'environ 3 à 6 mois, mais avec des scores sur une échelle qui mesure la mémoire, l'orientation, la capacité de jugement, etc., très faibles, non perceptibles en fait par les malades, dit même le président de la Société française de pharmacologie dans les colonnes du Point. Malheureusement, le ralentissement de l'apparition des plaques amyloïdes ne coïnciderait pas avec des effets palpables. Cela dit, la HAS va se prononcer en France une deuxième fois cet automne et changera peut-être elle aussi d'avis.
Merci Tara Schlegel.
Midi passé de 44 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
L'ONU a déjà mis en garde contre un désastre. Ce matin, l'armée israélienne affirme qu'elle va opérer dans la ville de Gaza avec une puissance accrue, à se demander d'ailleurs comment sa force de frappe pourrait être plus destructrice encore qu'elle ne l'a été durant ces presque deux années de guerre menées en représailles aux attaques du 7 octobre. Toujours est-il que l'État hébreu appelle les habitants à quitter la ville, soit près d'un million d'hommes, de femmes et d'enfants. Et de fait, nombreux sont ceux à fuir dès à présent vers le sud. Notre correspondant à Jérusalem, Thibault Lefebvre, a pu contacter Rami Al-Maghari, journaliste palestinien. Il doit quitter Gaza tout à l'heure et lui a raconté ses derniers préparatifs.
C'est la deuxième fois que Rami Al-Maghari doit tout quitter.
Cette fois, c'est beaucoup plus stressant.
La première, c'était en janvier dernier, quand le journaliste est remonté d'Al-Maghazi à 15 km au sud avec toute sa famille pour s'installer dans sa maison de l'ouest de la ville de Gaza. Depuis quelques jours, les valises sont prêtes, il va donc y retourner. Le départ est prévu cet après-midi.
C'est beaucoup plus stressant dans une façon que je devrais.
C'est bien plus stressant parce que je dois prendre l'intégralité de mes affaires, parce qu'il pourrait y avoir des pillages. La maison peut être détruite aussi par l'artillerie israélienne. Je peux dire que je suis chanceux d'avoir une autre maison à Al-Maghazi, parce qu'il est très compliqué de trouver un endroit au centre ou au sud de Gaza. Il n'y a pas de place, et quand vous trouvez une maison à louer, les prix explosent.
500 € la tente, 1 500 € mensuel minimum pour louer un toit en dur. L'armée israélienne impose de nouveaux déplacements à 1 million d'habitants de Gaza. Elle estime que 100 000 sont déjà partis. Si le plan de l'État hébreu va au bout, ce sont 2 millions de Palestiniens qui devront survivre sur moins de 20% du territoire.
Voilà, témoignage à Gaza recueilli par Thibault Lefebvre.
Les Norvégiens ont été appelés aux urnes hier pour des élections législatives particulièrement disputées.
Oui, influencées notamment par les troubles géopolitiques avec 28% des voix. Et bien que politiquement moribond il y a encore quelques mois à peine, le parti travailliste emmené par le Premier ministre sortant devrait se maintenir au pouvoir, mais à la tête d'un gouvernement vraisemblablement minoritaire, ce qui signifie qu'il devra composer avec toutes les autres forces de gauche et puis surtout avec 24% des voix. Ce scrutin aura été marqué par une poussée fulgurante de la formation anti-immigration qui non seulement réalise là le meilleur score de son histoire, mais devient également la première force d'opposition loin devant les conservateurs.
En Côte d'Ivoire, là-bas, la prochaine présidentielle verra le chef de l'État sortant Alassane Ouattara briguer un quatrième mandat.
Et son statut de favori ne fait désormais plus aucun doute après que ses deux principaux opposants, Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, ont été définitivement radiés de la liste électorale. Le premier en raison d'une condamnation judiciaire et le second pour des questions de nationalité. Ainsi, on a décidé hier le Conseil constitutionnel, ce qui signifie qu'au total, ce sont désormais pas moins de 55 candidatures sur les 60 déposées qui ont été retoquées par le juge. Omar Waman a demandé à Antoine Glaser, journaliste spécialiste de l'Afrique, si l'opposition avait malgré tout encore une chance de faire entendre sa voix.
À partir du moment où les deux principaux candidats, Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo, qui sont quand même à la tête des deux principaux partis d'opposition de la Côte d'Ivoire, ne peuvent pas se présenter, c'est évident que le quatrième mandat pour Alassane Ouattara ne posera absolument aucun problème. Il y a deux solutions pour l'opposition, soit c'est la rue, sauf que le pouvoir, depuis quelques mois, sinon depuis quelques années, c'est vraiment sur le plan sécuritaire, renseignement, c'est vraiment renforcé. Et d'autre part, c'est un pays où la population a tellement été traumatisée par les conflits et tout ce qui s'est passé en 2010-2011. Ouattara, qui fait son quatrième mandat, alors que au départ, il avait toujours dit qu'il ne ferait jamais un deuxième mandat, il en est à son quatrième mandat. Comme le disait l'ancien président Omar Bongo du Gabon, j'organise pas les élections pour les perdre. On a l'impression qu'on est dans un système maintenant ad vitam aeternam, avec un certain nombre de chefs d'État qui, comme ils disent toujours, un bon chef d'État africain, qui veulent mourir au pouvoir.
Voilà, Antoine Glaser, donc journaliste spécialiste de l'Afrique, il répondait à Omar Waman.
L'heure du verdict approche pour Jair Bolsonaro.
Les 5 juges de la Cour suprême du Brésil vont commencer à voter à partir d'aujourd'hui pour condamner ou acquitter l'ancien président accusé de tentative de coup d'État. Le coup près est attendu d'ici vendredi. À 70 ans, l'ex-chef d'État d'extrême droite risque jusqu'à 43 années de prison. Enfin, éternel agitateur de la politique thaïlandaise, l'ex-président Premier ministre Thaksin Shinawatra, elle est lui arrivée ce matin dans une prison de Bangkok pour y purger une peine d'un an ferme. Un peu plus tôt, la Cour suprême avait rendu son arrêt ordonnant son incarcération en application d'une condamnation initiale à 8 années de prison pour corruption et abus de pouvoir et dont il n'avait effectué à présent que 6 mois en hôpital. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi marqué par des pluies orageuses abondantes sur le flanc est. La Moselle a été placée en vigilance orange aux inondations, ciel variable partout ailleurs. Quant aux températures, elles afficheront entre 17 et 26 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.